Jésus, agriculteur. À la lecture, pour la énième fois, je vous l'accorde, de cette parabole du chapitre 13 de Matthieu, on ne le croira jamais. Mais le voilà donc, nous présentant un semeur qui sème n'importe où, ou sans égard pour son temps ou son argent. Un agriculteur qui gaspille. Avec ce que nous entendons partout sur le respect de la création, cela, dès le début, peut nous laisser perplexes. Les disciples ne comprennent pas. Ils ont beau être pêcheurs, pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas dupes. S'il s'agissait de leur propre métier comme le semeur de la parabole, ils feraient vite faillite. C'est donc que le récit de Jésus n'est pas une simple fable, une simple histoire morale dans un décor cohérent et anodin. Il y a autre chose à comprendre qu'ils ne comprennent pas. Et comme c'est difficile à reconnaître, ils le disent à propos des foules. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Elles ne comprennent pas. Pourquoi ne comprenons-nous pas quand tu parles? Si c'était une histoire de morale, si c'était Jésus la fontaine, là au moins tout serait clair. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les bons, les méchants, les saints, les réprouvés, ça nous comprenons et nous aimons, surtout quand on peut voir que ce sont souvent les autres qui sont du mauvais côté. Moi aussi, j'aime ça. Même si parfois, je ne sais pas trop de quel côté je suis dans ces fables, une parabole, ça reste déstabilisant. Cela dépend aussi un peu du sens du vent. Celui qui fait voler les graines. Mais bon, ici, ce n'est pas une fable, c'est plus une devinette. Alors, qu'est-ce que je dois deviner? Ça ne parle pas de morale, ça ne catégorise pas les gens, malgré les apparences, comme ici. Ça dérange presque. Pour le plaisir de déranger. Les paraboles, ça n'aime pas l'ordre. Les choses bien rangées, ça oblige à se poser des questions que celui qui a des oreilles entende. Imaginez un peu ce que cette phrase, qu'on retrouve plusieurs fois dans les évangiles, sème comme trouble chez moi. Que celui qui a des oreilles entende. J'ai des oreilles, mais malheureusement, elles n'entendent pas toujours. Je suis appareillé pour ceux qui ne le savent pas. Et la première question, ce n'est pas où je suis dans la parabole, mais bien qui est ce semeur étrange et gaspilleur. Évidemment, ce n'est pas un agriculteur. Alors, la première réponse spontanée qui peut venir, c'est Dieu ou c'est Jésus. Puisque c'est Jésus qui raconte, puisque c'est dans la Bible, puisqu'on est au culte, la réponse semble logique. C'est Dieu, c'est Jésus. Alors imaginez maintenant que vous n'êtes pas au culte. Imaginez que vous ne savez pas que cette histoire est dans la Bible. Imaginez que vous l'entendez pour la première fois. Et surtout, que vous n'entendez pas forcément tous les versets suivants, y compris même ceux que je n'ai pas encore lus ce matin, et qui semblent donner la bonne interprétation. Imaginez que vous l'entendiez dans un autre contexte. Qui est le semeur? Eh bien, le semeur, ça pourrait être moi. Moi, qui est quelque chose à semer. Comment vais-je faire? Où vais-je aller? Faut-il une stratégie de vente? Et que me dit donc cette histoire? Veut-elle m'encourager à semer n'importe où ou intensivement? Ou au contraire, veut-elle me montrer que je gaspille et que ma manière de faire n'est pas rentable? Et lorsque je pose devant moi cette alternative, je peux constater avec peur que la réponse n'est pas donnée. La parabole ne me permet pas de faire l'économie d'un choix personnel et responsable ou irresponsable. Dès que je veux refaire de la parabole une histoire morale qui dise où est le bon côté, j'échoue. La parabole résiste. Je suis un semeur, solitaire et inexpérimenté, parti seul à l'aventure sans rien maîtriser d'avance. D'ailleurs, difficile à remarquer, le texte ne dit absolument rien de ce qui est semé. Ni grain, ni semence, ni quoi que ce soit. Juste un pronom neutre pluriel qui ne veut rien dire. Là encore, ma sœur ou mon frère lecteur, que sèmes-tu? Et moi, qu'est-ce que je sème? Un peu partout ou bien nulle part? Peut-être, après tout, est-ce une bonne chose que ce que je sème ne pousse pas de partout? Peut-être cette histoire me raconte-t-elle qu'il n'est pas extraordinairement positif que ce que je sème puisse pousser en abondance sur certains terrains? Quelle responsabilité! D'autant que la parabole qui suit dans le chapitre sera celle de l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie à séparer. Suis-je un semeur d'ivraie? Sommes-nous des semeurs d'ivraie et que semons-nous? Pourquoi la réponse serait-elle absolue et invariable? Peut-être que par moments, ce que je sème ferait mieux de tomber sur les cailloux plutôt que dans la bonne terre. Mais peut-être qu'à d'autres moments, cela vaudrait le coup d'atteindre tous les endroits et à plusieurs reprises, afin que, même dans les pires endroits, il pousse un peu quelque chose. Encore une fois, ce matin, je partage avec vous un texte que tout le monde connaît, mais qui ne fait que nous renvoyer à nos propres interrogations, avec toutes nos angoisses et toutes nos craintes. Parabole dérangeante, donc, qui ne me laisse pas tranquille, et c'est fait pour ça. Car Jésus le laisse entendre à ses disciples, cette parabole, c'est l'Évangile. Or, le discours de Jésus semble ici très dur. Dur pour les foules, mais assez extraordinaire pour les disciples. Ils sont la bonne terre. On donnera à celui qui a. Quand les autres sont chemin, caillasse et buisson, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors il faut bien considérer ces paroles. Les disciples, c'est-à-dire vous et moi, ne l'oublions pas. Les disciples ne comprennent pas mieux que les autres, mais ils sont ceux en qui l'Évangile va donner du fruit. Nous sommes ceux en qui l'Évangile va donner du fruit. Le raisonnement part alors à l'envers. Si je reçois l'Évangile qui va transformer ma vie, c'est que j'étais de la bonne terre et que je ne le savais pas. C'est donc que le semeur de cet Évangile en moi, c'est Jésus. C'est lui qui est sorti pour semer. On reviendrait à la réponse évidente du début. Non? Pas tout à fait, parce que Jésus a rajouté quelque chose. Je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Il y a donc non seulement à entendre, mais aussi à voir, je suis rassuré. Il y a donc non seulement la parabole, mais celui qui est là et qui la raconte. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu. L'important est donc non seulement la parabole dans laquelle Jésus sème, mais l'important, c'est aussi que c'est Jésus qui parle et qui me parle à travers cette parabole. Cette parabole est une parole performative. Elle fait ce qu'elle raconte en le racontant. Jésus m'annonce la bonne nouvelle, que c'est Jésus qui m'annonce la bonne nouvelle. Jésus m'annonce la bonne nouvelle, que c'est Jésus qui m'annonce la bonne nouvelle. Et alors la parabole, une fois de plus, me renvoie à la balle dans une nouvelle direction. Lorsque je lis la Bible, lorsque j'écoute l'Évangile, qu'est-ce que je fais de Jésus? C'est une question qu'on peut poser à bon droit aux réformés que nous sommes, qui avons tendance à lire la Bible, parfois seulement comme un livre saint, comme si toutes les phrases étaient des commandements appliqués ou des éléments de doctrine à connaître. Et nous avons transmis cette manière de lire, parfois. Certains d'entre nous peuvent être en retrait par rapport à cette lecture littérale. Mais pourquoi ne pas aller plus loin dans la lecture, excusez-moi. Bien sûr que ce qui est dit est important, mais ce n'est important qu'à cause de celui qui le dit. La Bible n'est pas un enregistrement, c'est un téléphone. Et il parle aujourd'hui, je dis bien « il » et non pas « elle ». La Bible ne parle pas non plus qu'un téléphone. Il y a quelqu'un qui me parle. Voilà bien pourquoi trop souvent mon intelligence n'arrive pas à saisir le sens de cette parabole, mais d'autres encore. C'est qu'il y a plusieurs sens, mais un seul qui me soit adressé à moi à un certain moment. Peut-être un autre me sera adressé à un autre moment en relisant cette même parabole. Et l'on ne peut même pas comparer les différents sens. Ils n'apprennent rien à mon intelligence, mais ils parlent de ma vie à ma vie, et Jésus parle de moi à moi. Et l'avenir dira où cette parole intime, secrète, ineffable est tombée. Sur le bord du chemin, ou dans les cailloux, ou dans les ronces, ou bien sur un terrain propice, et même là, si elle aura produit 100 ou 60 ou 30 ou autre chose, ou même un seul grain. Jésus me parle, et c'est une parole de guérison, comme le laisse entendre la situation d'Ésaïe qu'il rapporte. En me parlant, Jésus me guérit. Ce n'est pas une théorie ni une théologie, c'est une réalité de ce que produit la relation avec Jésus. La parabole de Jésus dans laquelle il se livre à moi opère en moi ce qu'elle dit, puisque c'est lui qui est là et qui le fait. C'est encore un nouveau sens possible de la parabole du semeur. Jésus est lui-même la semence qu'il sème. Et oui, il tombe même sur ce qui est en moi est stérile, infantile, voire diabolique. Et ce qu'il condamne ainsi en même temps, il le guérit, il le nettoie, il l'enlève. Bref, il agit de telle sorte que j'en sois changé tout en restant moi-même. Mais il me faut ouvrir les yeux sur Jésus et sur moi. Il me faut réaliser à la lumière de la relation avec lui où sont les ombres de ma vie. Pas dans la culpabilisation, ni dans un mensonge lénifiant, mais plus chirurgicalement, objectivement. Il faut accepter comme le dit la situation d'Évaïe, de se convertir en sorte que je le guérisse. Il faut que j'accepte que Jésus soit là, présent, à ce que je suis vraiment. Il faut accepter qu'en Jésus, Dieu me fasse devenir ce que je suis vraiment. Mais la question n'est peut-être pas complètement « qui suis-je ?» mais « qui est Jésus pour moi ?» Elle n'admet pas une réponse dans le discours. Elle n'admet qu'une réponse dans le vécu d'une relation personnelle, dans ma vie, dans mon travail, dans ma santé, dans mes engagements, dans ma pratique religieuse. On n'est pas du tout dans les formules du style « on ne peut pas être chrétien et faire ceci ou cela ». On est plutôt dans nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce que nous pouvons laisser comme champ d'action à Jésus dans nos cohérences et nos incohérences? Pas « qu'est-ce que les autres peuvent laisser ?» mais nous, chacun, personnellement. Le champ est vaste où le semeur peut semer, et il est loin d'être dépierré, même là où les ronces ont été un peu dégagées. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, que je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et convertis-toi. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce sont des paroles que l'on trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 17 à 20. Vous donc, écoutez la parole du semeur. Amen.